As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, telles que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux Femmes des Territoires pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, réseau business et sororité pour les dirigeantes. Et bouge ton groupe pour accélérer l'égalité professionnelle dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs pionnières dans l'impact, toutes deux fondatrices d'entreprises solidaires à utilité sociale des ESUS et qui ont fondé leurs ambitions et leur modèle économique sur leur idéal de société, ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour nous toutes et tous. Bonjour Elisabeth Laville.
Bonjour Marie.
Alors vous êtes chief entrepreneur, c'est-à-dire présidente de la société à mission Utopie, qui est un think tank et un cabinet de conseil leader sur les stratégies de développement durable en France. Utopie qui fête ses 30 ans cette année.
Ciel.
Et dont le credo est « changer l'entreprise pour changer le monde ». Vous accompagnez donc les marques à devenir responsables et engagées. Utopie est aussi la première entreprise certifiée Bicorp en 2014 en France. Un label pour les entreprises qui sont socialement et écologiquement responsables et que vous avez importé et développé en France avec succès. Utopie, c'est aujourd'hui 75 salariés, 7,6 millions d'euros.
Ciel.
Bravo. 7,6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et Utopie fait partie régulièrement des lauréats Great Place to Work, c'est-à-dire les meilleurs endroits en France pour travailler. Vous êtes également l'autrice de plusieurs best-sellers, dont L'entreprise verte, Les marques positives et la révolution Bicorp aux éditions Pearson. Et vous siégez notamment au conseil d'administration de Nature et Découverte et de plusieurs ONG et fondations majeures. Bonjour Léa Thomassin.
Bonjour Marie.
Alors vous êtes la cofondatrice et présidente de Hello Asso, entreprise qui accompagne le secteur associatif dans sa transition numérique en développant des outils comme par exemple le paiement en ligne que peuvent utiliser gratuitement les associations et en soutenant les bénévoles pour renforcer leur impact social. Vous êtes ainsi aux côtés de 230 000 associations en France avec un modèle économique innovant et culotté puisqu'il est basé sur les contributions volontaires, c'est-à-dire sur les dons fait en ligne au moment soit d'une adhésion à une association ou une inscription à un événement. 7 millions de personnes ont déjà utilisé Helloasso. Vous avez récolté ainsi en tout plus d'un milliard d'euros pour les associations françaises. Helloasso, c'est aussi 115 salariés, un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et 10 millions levés, par exemple, l'année dernière. Vous êtes également administratrice de la Fondation des femmes et ambassadrice du mouvement Impact France. Ensemble, Léa Thomassin, Elisabeth Laville, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Léa, Elisabeth, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours, puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. Elisabeth Laville, on commence avec vous.
Alors, on commence.
Vous avez grandi en banlieue parisienne, avec un père pied-noir et une mère marseillaise d'origine corse, c'est vous qui me l'avez dit. Un mélange détonnant. Votre rêve était alors de devenir championne de tennis. Vous êtes toujours très sportive puisque vous êtes fan de sport de glisse. La légende veut que vous vous déplaciez d'ailleurs toujours en longboard sur la Seine à Paris.
Ce n'est pas une légende, je me déplace dans les rues de Paris en longboard. Ouais.
Et sur la Seine aussi.
Et sur la Seine... D'une certaine façon.
En wakeboard.
En wakeboard.
Alors, vous réalisez vos études au sein de la prestigieuse école de commerce HEC, dont vous sortez diplômée en 1988. Puis, vous travaillez successivement dans deux agences de publicité au planning stratégique. Votre premier moment clé, c'est 4 ans après votre diplôme, vous prenez des cours d'anglais régulièrement et votre professeur vous apporte un article qui va être déterminant pour la suite. Est-ce que vous pouvez nous partager ce moment ?
Exactement. Alors en fait, ça a commencé. J'étais donc dans cette deuxième agence qui s'appelait CLMBBDO, que j'avais rejointe car son fondateur, Philippe Michel, avait un peu cette idée que les marques peuvent changer le monde. Et comme tout jeune professionnel, j'avais donc des cours d'anglais pour améliorer mes présentations en anglais. Et un jour, mon prof, qui était assez jeune et à qui j'avais parlé de cette envie que j'avais de travailler sur les marques qui changent le monde, arrive avec un article d'une revue américaine qui existe encore, qui s'appelle Utner Reader, qui est en gros le Reader's Digest de la presse alternative aux États-Unis.
On est en 1992,
on est en 1992 donc, juste avant le sommet de la Terre à Rio, qui était en juin, le premier sommet de la Terre. Et donc, ce dossier était consacré justement aux entreprises qui changent le monde. Je me souviens avec une couverture sur Ben & Jerry's, que je ne connaissais pas à l'époque.
Les glaces.
Exactement, et qui allait devenir un des premiers clients d'Utopie. Et du coup, en lisant le document, j'ai vu certaines entreprises que je connaissais, Body Shop, etc., mais d'autres que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est génial. Il n'y a pas que quelques exemples que je suivais. Il y a un mouvement émergent, on va dire, au point qu'on y consacre quand même une, certes d'un magazine alternatif, mais enfin, il y avait au moins une dizaine, quinzaine d'exemples là-dedans. Et donc, je me suis dit, bon, en fait, il y a un mouvement. À la suite de ça, j'ai commencé à me renseigner. Donc, on parle, chère Marie, d'une ère où il n'y avait pas Internet. Donc, pour se renseigner sur un mouvement, notamment peu présent en France, c'était quand même pas un peu sportif.
Il fallait passer des coups de fil, lire
la presse, en fait. Il y a plein d'autres façons de se renseigner. Puis, j'ai commencé à en parler à mes clients. J'ai vu que ça les intéressait. Et c'est vraiment ce moment-là qui m'a déterminée à trouver une façon de faire carrière, entre guillemets, sur ces sujets qui me passionnaient dans cet univers qui émergeait. Et il s'est trouvé que la même année, j'en parle à mon boss, donc Philippe Michel, avant l'été. Il me dit « Ah, mais c'est super, on va t'aider, reparlons-en à la rentrée. » Et manque de peau, il est mort d'un infarctus pendant l'été. Donc, je me suis dit « Bon, ben... » C'est le dernier message qu'il t'envoie, c'est que c'est pas là que tu vas le faire, donc il faut que tu partes. Et la même année, j'avais une amie Catherine qui bossait dans les RH et dont la boîte ferme et qui me dit, on avait beaucoup parlé de l'importance du projet d'entreprise en interne pour elle, en externe pour moi. Et elle me dit, mais je vais monter une boîte. Et j'ai dit, faisons-le ensemble.
Et pourquoi le nom d'Utopie ?
Le nom d'Utopie, c'était un petit gag. Dans les premiers rendez-vous qu'on a fait, il y avait un rendez-vous avec un monsieur qui s'appelait Jacques Dermagne, qui était arrivé à la tête de ce qui s'appelait alors le CNPF, qui est le MEDEF aujourd'hui. Il était arrivé avec Jean Gandois à la tête du CNPF, avec tout un projet autour de l'entreprise citoyenne, qui était le terme qu'on utilisait à l'époque pour décrire ce sur quoi on travaille. Et donc, on lui demande un rendez-vous, on y va. Il avait peut-être déjà 60 et quelques années, donc il nous a un peu pris de haut. Moi, j'avais 27 ans. Et il nous dit, c'est très sympa votre projet, mais c'est pas très réaliste. En gros, en substance, un peu plus long, mais enfin c'était ça en résumé. Et en sortant, j'ai dit à Catherine, on va assumer le côté pas réaliste et on va appeler ça Utopie.
Léa, à vous, vous êtes née à Singapour, puis vous avez déménagé régulièrement, beaucoup voyagé aussi pour les besoins du travail de votre père qui exerçait dans l'agroalimentaire, puis qui est devenu entrepreneur à son tour. Vous avez vécu notamment en Normandie, en Écosse, en Haute-Marne, au Pays Basque, au Canada, une enfance très riche qui demandait parfois de fortes capacités d'adaptation, notamment pour les langues, j'imagine.
Clairement.
Au-delà de vos engagements, vous avez des similitudes cachées avec Elisabeth, puisque vous êtes toutes les deux passionnées de surf. Et votre moment clé, vous, c'est en terminale, et c'est votre prof de sciences économiques et sociales qui va changer la donne.
Ouais, il s'appelle Philippe Olivier. Et j'étais en terminale ES et on avait un cours de sciences économiques et sociales. Et pour la première fois de ma vie, à ce moment-là, on est en 2004, ce prof nous parle de développement durable. Et donc, il commence à évoquer le rapport Meadows, les limites à la croissance. Il commence à évoquer les travaux qui sont en cours pour imaginer un développement économique qui soit soutenable et qui soit, dans les limites de la planète et vertueux pour les humains qui y habitent. Et je me rappelle précisément où je suis assise dans la classe à ce moment-là. J'ai vraiment, ça a été un souvenir très marquant. Et je me suis dit, OK, ça me parle. Et j'ai envie d'aller dans cette direction-là, sachant que moi, à cette cette époque-là, j'étais assez révoltée par les injustices. Je sentais que j'avais beaucoup de colère en moi, mais je voyais pas très bien ce que j'allais faire de ma vie. Donc je m'impliquais dans des associations, j'étais assez investie sur voilà des projets de solidarité encore voilà de toute petite échelle hein, de quartier avec mes copines de classe en soutien à des SDF, etc.
Donc des maraudes, tout ça.
Voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, enfin un truc qui résonne. Et donc, ça a été un soulagement, quelque part, de me dire, en fait, c'est possible, il y a des alternatives, on peut faire différemment. Et à ce moment-là, fort de cet enseignement, je l'ai emmené avec moi. Je me suis destinée vers une école de commerce aussi, que j'ai choisie parce qu'elle avait une spécialisation en économie sociale et solidaire.
L'ESCA d'Angers.
L'ESCA d'Angers. Et ce qui est rigolo, c'est qu'après, aux oraux, pour les écoles de commerce, je suis arrivée en sujet qui m'a été posé à l'oral, qui était, qu'est-ce que le développement durable ? Et à l'époque, on en parlait malheureusement pas encore beaucoup du tout, même si les travaux avaient plus de 20 ans en question, ils n'étaient pas du tout enseignés. Et moi, je m'étais plongée dedans. Et donc, à ces oraux, j'ai pu dérouler un peu le fil de tout ce qui m'avait interpellée là-dedans. J'ai eu 20 à cette orale-là en question. Et les gens, ils m'ont dit, mais comment ça se fait que vous êtes déjà aussi aguerris ? Donc, heureusement, maintenant, je pense que beaucoup de bacheliers auraient beaucoup de choses à dire sur le développement durable. Mais à l'époque, c'était encore peu le cas.
Et comme donc, quoi, ça c'était fait pour vous, quoi.
Voilà. En tout cas, après, ça m'a vraiment portée. Du coup, je me suis beaucoup ennuyée sur les premières années d'école de commerce avant d'atterrir dans cette spécialisation parce que le business tel qu'il était enseigné avec vraiment des logiques très marketing, grande conso, très standard, je ne me suis pas du tout reconnue là-dedans. Après, j'ai pris plein d'enseignements et plein de choses intéressantes. Et c'est vraiment dans cette spécialisation en dernière année que là, je me suis épanouie et qui a mené ensuite à la création d'Elo Asso et à ma trajectoire.
Et ce qui est très drôle, ce qui est une belle histoire, c'est que votre professeur vous a recontacté il n'y a pas très longtemps, en fait.
Non, il n'y a pas très longtemps, j'ai publié une tribune dans Ouest France pour parler de la nécessité de préserver le lien social notamment. Et on a un partenariat aussi, Elo Asso et Ouest France, où on accompagne conjointement les associations. Et donc, le lycée est à Rennes et donc mon prof est à Rennes. Et il est tombé sur la tribune dans le journal. Et du coup, il a écrit à contact@eloasso.com en disant « Coucou Aléa, mon ancienne étudiante, etc. » Donc, l'équipe m'a transféré le message et je lui ai répondu et je lui ai expliqué en fait à quel point ce cours-là avait été... décisif pour moi et m'avait permis de me réaliser, de me trouver à l'endroit où j'étais aujourd'hui, où moi je trouve que c'est un grand privilège d'arriver à un endroit dans sa vie où on est en capacité d'allier cette vocation, la mission, enfin ce que les Japonais appellent l'ikigai, qui est un peu ce croisement. Et donc je considère avoir beaucoup de chance d'être là et je pense qu'il y est pour beaucoup. Donc je lui ai écrit un mail où j'ai pleuré en lui écrivant. Je pense qu'il a dû pleurer en le recevant aussi. Il m'a fait une réponse très touchante et en me disant notamment qu'ils espèrent, en fait, les enseignants, à un moment toucher comme ça, susciter des vocations, mais qu'au final, ils savent pas, parce que beaucoup d'entre eux, ensuite, ils suivent pas forcément ce qu'ils deviennent. Et donc, il dit, on espère qu'on sème des graines. Et donc, du coup, forcément, le retour et le témoignage que je lui ai fait l'a beaucoup touché.
C'est dingue, hein, cette similitude entre vous deux.
Allumer des feux.
Elisabeth Laville, Léa Thomassin, je vous propose d'échanger sur vos parcours d'entrepreneur en regard croisé, les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risques maximales, ce qui a construit vos moments de succès, vos difficultés. Et puis, nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. Elisabeth, vous êtes sur un changement de mentalité quand vous commencez au tout démarrage, et même encore aujourd'hui, parfois c'est pas toujours simple, donc c'est sur de l'humain. Alors parfois ça marche quand c'est bien ancré, et parfois, c'est plus compliqué. Est-ce que vous pouvez partager un moment où vous avez essayé de transformer une marque ? Alors, il y en a plein qui ont réussi. Hein. Et puis, un moment où on se rend compte, en fait, ça repose sur du sable mouvant, en fait.
Oui, il y en a plein qui réussissent, mais il y en a aussi pas mal qui échouent, hein, pour être clair. Et ça n'empêche pas que ça vaut le coup d'essayer, évidemment. Mais donc, c'est effectivement arrivé plusieurs fois et plusieurs fois récemment. Pas que au début, finalement. D'une certaine façon, on a beaucoup plus de clients maintenant, donc il y a plus d'exemples marquants d'échecs maintenant aussi. Mais un exemple, une DG plutôt ambitieuse, assez inspirante, vient nous voir, nous dit oui, je veux vraiment transformer radicalement l'entreprise, son modèle économique, son offre autour du développement développement durable, je veux aller très très loin. Ben, sur le papier, c'est le brief en or. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est hyper influent dans la boîte, qui a de grandes ambitions. Elle nous dit en gros, on peut tout changer si on veut. Bon, alors on se dit, génial. Dans un secteur hyper intéressant qu'on ne connaissait pas, l'équipe était au taquet, hyper enthousiaste, on y va, on y croit. On commence le projet, on mène, comme toujours, dans la phase du diagnostic, des entretiens, on lit pas mal de docs en interne, on mène des entretiens internes, externes, et puis on sort les premiers constats du diagnostic. Et le premier constat, c'est que le sujet qui pose problème, au fond, c'est intrinsèquement le modèle économique de cette entreprise, qui consiste, en gros, à vendre à bas prix d'énormes volumes d'objets, on va dire, dont les gens n'ont pas forcément besoin, avec des conséquences environnementales énormes, des conséquences sociales énormes, parce que pour produire des objets, des produits à bas prix, quel que soit le marché, ça ne le fait pas en général. Et donc, en gros, il y a un problème équivalent de la fast fashion sur la mode, mais que cette entreprise, d'une certaine façon, a amené sur son marché, qui aujourd'hui est un marché, je ne cite pas le marché, parce que sinon...
Non, il ne faut pas.
qui est un marché à 95% ou même plus dominé par le grand import. Et donc... on fait ce constat-là en se disant, bah, évidemment, au vu de l'espèce de truc hyper aligné qu'on avait au début, on se dit forcément, elle va être d'accord, il et ses équipes vont être d'accord avec nous. Et là, le choc, ils nous disent, ah non, mais pas du tout. C'est pas du tout ça le problème. Nous, il est hors de question de toucher au modèle économique. En fait, on veut être plus responsable, mais sans changer le modèle économique. Alors, on leur dit, oui, mais le problème, c'est le modèle économique. Et donc, d'une certaine façon, si on ne fait que continuer dans cette voie-là en essayant d'améliorer les choses à la marge, on peut le faire, mais c'est pas très intéressant. Vous serez pas crédible. Et surtout, ça ne ressemble pas au projet que vous vouliez quand vous êtes venu nous voir. Donc, le constat n'est pas partagé. Les discussions, ça a un peu tourné au vinaigre à ce moment-là, gentiment, mais... C'est-à-dire qu'on a eu quand même quelques discussions difficiles avec les équipes, puis avec la DG. Le ton est parfois monté. Alors, c'est le lot du consultant hein, de faire le fusible quand il y a un sujet finalement en interne qui ne se passe pas bien. Et puis, face à cette incompréhension mutuelle, on s'est dit, bon, ben, à un moment d'un commun accord, on ne va pas s'énerver, il faut qu'on arrête la mission, en fait. Après quelques semaines, et donc l'enthousiasme de notre équipe est retombé assez sec. Et finalement, enfin, c'est arrivé quelques fois, mais vraiment avec la même configuration à chaque fois. Et j'en ressors avec pas mal d'enseignements et de convictions sur le fait que nous, dans notre boulot chez Utopie, on doit faire à la fois preuve d'énormément d'ambition pour changer tout ce qui peut l'être et d'énormément d'humilité pour accepter que par moment, ça ne peut pas être changé, ce n'est pas le bon moment, politiquement, l'actionnaire. Finalement, on peut avoir un DG qui a très envie, mais ses équipes ne suivent pas, son actionnaire ne suit pas, ou politiquement, pour lui ou elle, ce n'est pas le moment. Et donc, ça ne se passe pas. Alors, ma consolation, c'est que dans la plupart des cas, quand ça s'est produit, si je prends les 3-4 exemples récents, une fois qu'on arrête la mission, l'entreprise ne se transforme pas radicalement. Donc, d'une certaine façon, moi, j'y trouve le signe que ce n'était pas forcément
c'était
une
pas
faille
vous.
De notre... Oui, c'est... En tout cas, on peut toujours mieux faire, mais qu'on n'a pas réussi et qu'eux n'ont pas réussi non plus, finalement, à se transformer. Mais ça amène quelques discussions souvent avec l'équipe. C'est un sujet dont on parle souvent parce que mon équipe me dit « Ah non, mais on devrait savoir en amont, comme ça, décider tout de suite sur la base de la demande. »
Faut pas perdre de temps,
c'est ça. Faut y aller ou faut pas y aller. Ouais. Et en fait, c'est très compliqué parce que cet exemple illustre que parfois, sur le papier au départ, c'est le projet du siècle et en fait, ça ne va pas marcher pour des raisons humaines, politiques, etc. Et à l'inverse, j'ai aussi des cas inverses. Là, c'était moment difficile, c'était pas moment facile. Où ça part très mal, comme une mission un peu poussive, un peu RSE, j'allais dire old school, bon. Et puis finalement, on gagne la confiance des personnes en face et au bout d'un moment, on leur dit non mais vous savez, le problème, c'est pas tout ce qu'on fait autour, ça serait vraiment de changer le modèle économique, ça serait ça qui serait intéressant. Et à un moment, ça se passe. Et ça se passe d'une manière ambitieuse qui fait basculer les concurrents. Et là, c'est le rêve.
Vous pouvez citer une marque, là, du coup, sur le moment facile. Une marque qui a changé son modèle économique.
Ah, d'accord, là, on a le droit. OK, super.
Non, sur le moment difficile,
sur
j'imagine, c'est compliqué pour vous.
Facile, non,
mais sur des marques
qui ont changé. D'une certaine façon, il faudrait être capable de communiquer sur les deux. Non, mais par exemple, on a mené une mission chez Galeries Lafayette qui a abouti à un mouvement qui s'appelle Go for Good, qu'on avait proposé et lancé, dont l'objectif était de dire à l'enseigne, ben, en fait, les deux leviers sur lesquels vous pouvez agir, c'est la sélection des produits en amont. Donc, il faut que vous soyez hyper bon, que vous alliez voir les marques, y compris des grandes marques de luxe. Au départ, ils n'étaient pas très pour. Allez voir ces marques et dites-leur, OK, c'est quoi les produits responsables sur une liste de critères objectifs qu'on avait identifiés. Et ces produits-là, deuxième levier, on va les valoriser dans tous les outils commerciaux, la carte de fidélité, la promo, etc. Et finalement, ça a entraîné sur le marché de la mode un changement qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont un objectif qui est d'être à un quart des produits vendus chez Galeries Lafayette cette année, en 2024, non, l'an prochain. Et donc, c'est énorme, en fait. Et ça a changé beaucoup de choses aussi chez les marques qu'ils allaient voir pour leur dire, bah alors, est-ce que vos produits sont responsables ou pas ?
Léa, je vous vois sourire en écoutant Elisabeth.
Oui. Quelque part, c'est aussi des choses, ce changement de mentalité auquel on a été confronté aussi au démarrage, où la question de l'équipe qui est, est-ce qu'on ne peut pas savoir en amont quelle est véritablement la volonté de la boîte. Enfin, c'est vrai que moi, c'est souvent des choses aussi que je me suis dites. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah ouais, c'est super, etc. » ce que vous faites, qui sont très encourageants, mais en fait, est-ce qu'ils y croient vraiment ou pas ? Ça a toujours été des questionnements aussi.
Léa, vous, votre moment difficile, cela fait 3 ans que votre structure existe, et c'est vraiment dur, hein, le modèle économique, pour le coup, il n'est pas bon, non. Celui du démarrage. Et vous êtes dans un café, à République, à Paris, vous êtes 4, et l'ambiance n'est pas à la fête, on va
l'ambiance
dire.
L'ambiance n'est pas rose, non, pas du tout. Et en fait, ce moment, il arrive 3 ans après la création de la structure, et 3 ans que moi, je qualifie un peu de la traversée du désert. Hein. C'est ce moment au début où, en fait, on voulait utiliser le numérique pour permettre de financer les associations. Après, sur la manière de le faire, pendant ces 3 ans, on a tâtonné. On a lancé plein de trucs qui n'ont pas forcément marché. L'idée initiale, c'était d'être des Robins des Bois de la publicité sur Internet. Donc, on s'est dit, on va développer une application et on va proposer à des gens, comme vous et moi, de s'exposer à de la publicité volontairement pour que ça génère des dons à des associations, quelque part, pour pouvoir faire du don gratuit.
Et ça s'appelait Mail for Good
ça
à l'époque.
Ça s'appelait Mail for Good
pas
à l'époque.
Et l'OSO.
Voilà, encore un pont avec Go for Good. Et à ce moment-là, on a galéré, techniquement à développer ça. C'était une application qui s'installait sur des navigateurs, donc sans rentrer trop dans la technique. Nous, à l'époque, on les avait fait pour Internet Explorer et pour Firefox. Et à ce moment-là, c'est lancé Chrome, qui a une progression mais fulgurante. Et donc, en fait, en quelques mois, Chrome fait 50% du marché et nous, on n'a pas d'application pour Chrome. Après, d'un point de vue annonceur aussi, ça les intéressait pas trop parce que c'était pas les formats publicitaires en vigueur. Et donc, on passe 3 ans à tâtonner. On se dit, tiens, ça marche pas côté utilisateur B2C. On va tenter de proposer ça en B2B. Donc, on va aller voir...
Donc, business to business.
Exactement. On va aller voir des entreprises. On va leur dire, on vous propose de mettre en bas les mails de tous vos collaborateurs, quelque part, une version solidaire du n'imprimez pas cet email, pensez à l'environnement, mais qui serait un soutien à une association et avec l'entreprise qui s'engage à chaque mail de faire des dons. Bon, ça n'a pas marché non plus. Les DSI étaient vraiment, donc les directeurs de toute la sécurité des systèmes d'information des boîtes étaient vraiment très opposés à cette idée. Et donc, on avait le sentiment de ramer. Et on ramait en plus dans un moment où on était on était 4 à l'époque et tous dans des situations assez précaires où on ne se rémunérait pas ou peu. Et on continuait à se dire, non, il faut retenter, mais c'était difficile. Et donc, à ce moment-là, on est donc en 2012, ça fait 3 ans, et dans ce café, et là, on se dit...
Vous êtes en larmes, hein ?
Moi, je suis en larmes parce qu'on se dit, on va arrêter. Et en fait, on aura essayé, on a fait ce qu'on a pu, mais c'est fini. Enfin, là, on remballe et quelque part, rideau, et voilà, on aura fait ce qu'on a pu. Et là, je me souviens avoir eu vraiment une espèce de pulsion, et de me dire, non, c'est pas possible, en fait. Et il y avait vraiment, après, l'attachement aux personnes, la conviction qu'on était capable de faire quelque chose ensemble. Et donc là, je rame et j'ai aucun argument très rationnel pour essayer de les convaincre. C'est vraiment l'émotion qui se parle à ce moment-là et où je leur dis non, mais on ne peut pas s'arrêter là, on continue, etc. On retente et donc on se dit ok, on se donne 3 mois. Et en fait, on a pu dans les 3 mois qui ont suivi, s'est passé plein de choses. Notamment, c'est là où on a mis pour la première fois au-delà de proposer simplement des dons avec de la pub, on a proposé aux gens de faire des dons par carte bancaire. Et en fait, là, on a en quelques mois plein d'associations qui nous contactent en disant moi, c'est super, et en fait, il n'y a pas d'outils aujourd'hui pour faire la collecte de dons en ligne. On a plein d'associations qui s'inscrivent dans les mois qui suivent. On réussit à convaincre sur ce nouveau modèle-là des investisseurs de nous suivre. On fait une levée de fonds, et puis après, ça s'est beaucoup mieux passé. Et au final, on était, assez proche de la réussite. Et il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit on ne sait jamais à quel point on est proche de réussir au moment où on pense tout arrêter, où on pense qu'on va échouer. Et donc, heureusement qu'on a persévéré encore quelques semaines.
C'est tellement vrai. Et l'histoire
l'histoire est jolie aussi parce que vous apprenez que la levée de fonds se fait. Quand vous êtes où ?
Quand je suis en train de faire le tour des Annapurna.
Au Népal ?
Au Népal. Et j'avais pas de réseau. Et donc pendant 3-4 jours, j'ai pas de réseau. Et après, je monte à 5004. Et donc pour moi, c'était aussi un challenge un peu personnel où j'avais envie de me dépasser. Donc je suis partie toute seule marcher au Népal. Et quand je retrouve du réseau, j'ai Ismaël au téléphone et il me dit « je pense que ça va le faire, etc. Il faut que tu reviennes et qu'on fasse ça, etc. » Et donc là, je me dis « ok, bah, peut-être que c'est un signe aussi. » voilà. Et après, je suis revenue à Paris, on a fait la levée de fonds et on est parti s'installer à Bordeaux.
On va partager maintenant un moment de risque maximal et ça tombe bien parce que vous avez parlé de votre situation précaire à ce moment-là, Léa. Et vous, Elisabeth, c'était justement au tout début d'Utopie. On le sait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se payent pas au début. Léa, vous venez d'en parler. Et vous, avec votre associé, consciemment, vous avez décidé que ce ne serait pas le cas.
Oui, et en fait, ça s'est reproduit quelques années après de manière amusante quand on a créé l'entreprise et on l'a créé en association, en fait,
au démarrage.
Pendant 1 an et demi. Alors moi, j'avais aussi une espèce de, sans doute, de, comment dire, de gratitude à manifester envers mes parents qui m'avaient financé ces études à HEC, qui étaient contents que je sois à peu près sortie d'affaires.
Parce que vous aviez un bon salaire dans les agences.
J'avais un salaire, en tout cas, correct, voilà, dans la pub. Et l'idée de repartir à zéro, mais carrément à zéro, je me disais, non, je ne peux pas leur faire ça, c'est quand même pas possible. Et j'ai dit à Catherine, écoute, en fait, pour que ça soit sain, le projet, il faut qu'on arrive à se payer. On ne se paiera à rien, on se paiera au SMIC, mais si on n'arrive pas à se payer dès les premiers mois, ça ne marche pas, quoi. Ça ne peut pas marcher. Donc, on s'est dit. Et puis, en plus, on voyait autour de nous, et j'en vois encore d'ailleurs plein d'entrepreneurs, comme vous le disiez, qui créent leur boîte en étant au chômage, mais du coup, la dynamique n'est pas saine, parce qu'en fait, on croit que la boîte marche, mais en fait, elle ne marche pas, puisqu'on ne se paye pas. Bon, bref.
Donc, c'est catastrophique, hein, ce financement.
Ah, je pense que c'est
sans phase de la formation ou du réseautage.
Oui, je pense qu'il faut vraiment s'astreindre à cette discipline financière. Donc, on a dit, depuis toujours, on veut être autofinancé. Donc, quitte à pas se payer beaucoup, mais on veut être autofinancé.
Et c'est
donc
pas ça, facile, hein. C'est vraiment pas facile.
Non, c'est pas facile. Mais du coup, ça nous a mis sur de bons rails, je trouve, pour les 30 ans qui allaient suivre. Et c'est quelque chose qu'on essaie encore de s'appliquer, cette histoire d'autofinancement, au point que quasiment 20 ans après, en 2011, après, on a fait une grosse restructuration. Et à ce moment-là, on avait des salaires qui étaient à nouveau beaucoup plus bas que le marché, qui étaient en gros au niveau d'une ONG, qu'on n'était pas.
Parce que c'était encore un modèle, un milieu alternatif.
Très, très émergent, alternatif, hasardeux, voilà. Tout ce qu'on veut. Je ne suis pas sûre qu'il soit beaucoup plus robuste maintenant, mais quand même. Et donc, on avait des salaires vraiment très bas. Donc, c'était un problème pour recruter. C'était un problème pour les gens. On était 20 ans plus tard. Donc, les gens, moi compris, commençaient à avoir des apparts, des remboursements. Tout le monde n'a pas une famille derrière qui subventionne pendant des décennies. Sans compter ceux qui commencent à avoir des enfants, etc. Ils ont envie de bouger un peu. Bon, bref. Après cette réorganisation en 2011, j'ai dit « Ok, maintenant, ça suffit. On n'arrive pas à recruter des gens au niveau qu'on souhaite. Donc, on va remonter les salaires au niveau du marché. Je ne dis pas au niveau du marché plus. On n'a pas des salaires de McKinsey, mais à un niveau qui est un niveau d'entreprise, de conseil de notre taille. Et si on n'y arrive pas, eh ben, tant pis, on arrête. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à faire... Donc, il y avait précédemment des salaires très bas et des variables très importantes qui pouvaient représenter jusqu'à la moitié du salaire annuel. Mais quand vous avez un loyer à payer, c'est pas possible d'avoir juste une partie de votre revenu en prime à la fin de l'année. 50%, c'est énorme. Donc on a remonté tous les salaires.
Vous étiez prête à arrêter ?
Ben, je me suis dit, si on n'y arrive pas, ça fait 20 ans bientôt qu'on fait ça, si c'est toujours pas, on n'arrive pas à s'autofinancer après 20 ans, donc on a dit, on monte les salaires et on a augmenté tous les salaires fixes de 40%. Et
ça
c'est
a été énorme, début... Alors, énorme.
Oui, c'est énorme, mais enfin ils étaient très bas. Donc c'est passé, et puis on a dit, ça passe ou ça casse, c'est passé. Ça nous a poussé à nous structurer davantage, à veiller à être beaucoup plus fin sur le suivi, l'autofinancement justement. Et puis on a, d'une certaine façon, à partir de là, pu financer la croissance d'Utopie qui a vraiment aussi beaucoup commencé à ce moment-là, en préservant l'indépendance qui est absolument essentielle. On est le dernier, on a été les premiers, mais on est les derniers de cette taille indépendant sur notre marché. Et cette indépendance, elle est nécessaire à notre liberté de ton, d'action, de parole, etc.
C'est-à-dire sans actionnaire, hein, c'est
ça ? Sans actionnaire autre que nous-mêmes. Et ça a été le début aussi d'une structuration importante de la politique RH, ce qui nous a amené à être labellisé Great Place to Work, etc. Parce qu'on se disait, c'est pas possible, en fait, de proposer à des gens de 30 ans des revenus qui ne leur permettent pas de payer leur loyer, d'avoir un minimum de sécurité quand même financière.
Donc il fallait une cohérence, en fait, finalement. Développement
ça,
durable.
Ça a été le début, ce changement-là, le changement de gouvernance plus ce choix-là, et l'engagement RH que ça représentait, ça a été le début d'une deuxième phase, en fait, chez Utopie, clairement, qui va avec la société à mission, Bicorp, Great Place to Work, etc.
Et qui va avec aussi avec l'ouverture dans notre société à tout ce qui est développement durable.
Oui.
Donc une structuration et un professionnalisme et une reconnaissance. Léa, vous, votre moment de risque, de prise de risque maximale, c'est quand vous avez dû changer de modèle pour vous consacrer entièrement aux associations. Est-ce que vous pouvez nous partager ce moment-là ?
Oui, où on a choisi de changer de modèle. Donc c'est là où il y a eu...
C'est difficile ça aussi. Hein.
C'est difficile parce que quand on a commencé à développer la solution donc, de collecte de dons pour les associations, on a tout de suite choisi un modèle économique qui reposait sur la contribution volontaire. Donc où il n'y avait pas de commission, c'était simplement les utilisateurs qui allaient laisser une contribution volontaire au moment de leur paiement.
Mais on ne pensait pas que vous étiez... Fou, folle.
Si, complètement.
Parce que vous n'aviez pas d'autres revenus que les dons au bon vouloir de ceux qui réglaient sur Internet. C'est ça,
exactement.
Une adhésion ou un événement.
De collecte de dons, c'était notre parti pris de départ et on avait une conviction forte qui était de se dire, parce que quand on s'est lancé, tout le monde nous a dit, mais en fait, vous êtes fou.
Ça ne marchera jamais.
On ne va rien vous laisser. Nous, on s'est inspiré d'un modèle qui existait aux États-Unis et on nous a beaucoup rétorqué, oui, mais on n'a pas du tout la même culture du pourboire. À l'époque, on appelait ça un pourboire en France. Les Français sont radins. Personne ne va rien vous laisser.
Mais vous, vous étiez convaincu que ça allait marcher ?
Convaincu et on avait une conviction qui était quand on parle au meilleur des gens, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et du coup, on a beaucoup misé sur la transparence dans ce modèle-là où on a expliqué très concrètement faire du paiement en ligne sur Internet, ça a un coût, l'accompagnement des associations a un coût, etc. Mais toutefois, quand on a commencé, on voyait que du coup, il y a eu une adhésion quand même à ce modèle-là, mais c'est un modèle qui repose sur des micro-contributions volontaires.
C'est-à-dire 1 euro, 2 euros.
Aujourd'hui, la moyenne, c'est 1,80 € qui est laissé par une personne sur Hello Asso. Donc en fait, pour que ça permette de financer une entreprise et son développement, il faut se lever tôt et il faut énormément de volume. Et donc on a fait un détour qui a été hyper intéressant où on s'est dit ok, comment on fait pour avoir un appel d'air en termes de chiffre d'affaires en fait en attendant que ce modèle-là nous permette de nous financer. On s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire? On connaît bien le secteur associatif et on sait faire des plateformes web. Donc on va aller voir des fondations d'entreprises et on va leur dire est-ce que vous voulez une plateforme de mobilisation autour de vos engagements, de vos associations, etc. Typiquement, on a produit plusieurs années de suite la plateforme pour la Fondation EDF, qui était le trophée des associations, qui invitait des internautes à voter. Et en fonction des votes, la Fondation EDF allait attribuer une dotation à des associations. Et donc, on a fait ça. Et en fait, on a fait ça avec beaucoup de succès. On a recruté à ce moment-là une personne géniale qui était un super commercial. Et donc, on a vendu plein de plateformes à plein de boîtes. Et donc, on se retrouve, et dont des projets un peu rigolos, on a vendu une plateforme pour Orange en Côte d'Ivoire, donc qui s'appelait Orange Collect, dans le but d'amener justement le crowdfunding en Côte d'Ivoire. Et au final, on a beaucoup appris de ces expériences-là. Mais à un moment, ça fait 2 ans et demi qu'on fait cette activité B2B en parallèle de la plateforme aux assos. On y consacre quasiment toutes nos ressources, notamment techniques. Nos développeurs, ils font que développer des marques.
Pour des fondations.
Pour des fondations. Et à côté de ça, on a une plateforme qui n'évolue plus. Et,
pour les associations.
Pour les associations. Et on se dit, en fait, on ne peut pas continuer comme ça. Et à un moment, il faut qu'on choisisse. Et à ce moment-là, le B2B fait 70% de notre chiffre d'affaires. Et là, on décide, on se dit, ok, en fait, on arrête complètement. On ne peut pas le faire à moitié. Parce
vous supprimez 70% de votre chiffre d'affaires.
Ouais. En fait, on se dit, à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, on va voir tous nos clients et on leur dit qu'on arrête. Donc, sachant que notre équipe, qui était assez jeune, on avait commencé l'activité 2 ans et demi avant. Donc, en fait, on avait une équipe qui s'occupait du B2B, une personne qui est chef de projet qui venait d'être recrutée là-dessus et dont les premières missions étaient d'aller voir les clients et de leur dire on arrête. Ce qui n'est pas des moments faciles quand ils ont des plateformes qui tournent et qu'on maintient. Et donc, là, on s'est dit, on va forcément avoir une chute, mais on va retrouver, nous, toutes nos ressources. Et si on veut développer la contribution volontaire, il faut qu'on investisse dans la plateforme. Ce qu'on a fait, au final, les contrats ont duré un petit peu plus que prévu, le temps de trouver des solutions bis, notamment pour nos clients. Et on a complètement arrêté. Il y avait aussi une partie de nous où on se disait, on n'a pas fait ça pour ça. Et quelque part, notre mission, c'est d'accompagner les associations. Et en fait, on sentait qu'on aurait pu faire beaucoup de choses avec des entreprises, mais ce n'était pas le sens de la création des Loisseaux. On a arrêté. Et l'année d'après, on a retrouvé le chiffre d'affaires en contribution volontaire.
Comme quoi, avec vous deux, on peut augmenter de 40% ses salariés et diminuer de 70% de son chiffre d'affaires et survivre.
Non, les deux ensemble, c'est compliqué.
C'est clair.
J'imagine.
On peut pas faire en même temps.
Dans votre parcours, quel moment a été un peu magique ? Elisabeth, vous, c'est en 2008. Ça fait déjà 15 ans que Utopie existe, 15 ans que vous prêchez le développement durable partout.
Voir dans le désert.
Voir dans le désert, mais il commence à sortir de l'ombre ouais. À ce moment-là, en 2008. Et tout d'un coup, votre engagement est reconnu cette année-là, votre engagement, le développement durable aussi. Ça commence par un appel un peu symbolique.
Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dès le départ, comme au début, le sujet sur lequel on travaillait n'existait pas, quand on a créé l'association, et c'est aussi pour ça qu'on avait créé une association à la base, l'idée, c'était vraiment de promouvoir une nouvelle façon de voir et de pratiquer l'entreprise. Et donc, on a lancé l'activité de conseil après un an et demi, et d'une certaine façon, ça venait compléter, c'était une façon d'incarner ce qu'on racontait. Mais le point principal, c'était vraiment de faire émerger une nouvelle vision de l'entreprise et de son rôle dans la société. Et donc, dès le début, on a eu, et aujourd'hui, ça se retrouve encore par le fait que dans l'activité d'Utopie, on a 10% du temps de l'équipe à peu près qui est consacré à ce qu'on appelle l'activité de think tank, qui est en gros de la recherche et de la publication. Tout est gratuit en ligne sur notre site. Donc là aussi, il y a un petit challenge d'autofinancement.
Mais ça contribue à enrichir la vision.
À faire avancer la compréhension des sujets, parce que c'est un sujet récent finalement et qui évolue beaucoup. Donc pour que les entreprises comprennent quels sont les nouveaux sujets, les nouvelles pratiques, etc. Bon. Et moi, j'ai toujours dit que de ce point de vue-là, notre part d'influence, finalement, compte plus que notre part de marché. Bon, au départ, la part de marché comptait pas parce qu'il n'y avait pas de marché. Aujourd'hui, il y a un petit marché. Mais on regarde beaucoup plus notre part d'influence que notre part de marché. Et donc, en 2008, effectivement, il y a eu deux choses, en fait, qui se sont produites vraiment à nouveau en même temps. C'est assez amusant, parfois, l'alignement des planètes et le fait que des points de bascule se produisent tous en même temps en quelques semaines. Le premier, c'était un appel d'une femme que j'avais rencontrée parce qu'on travaillait avec la station de ski d'Avoria sur l'engagement de la station, qui s'appelle Annie Famos, qui est une ancienne championne olympique de ski, et qui m'appelle et qui me dit « Écoute, moi j'ai eu le prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires il y a quelques années, il faut que tu saches juste que j'ai proposé ton nom pour cette année et je crois que tu es dans les finalistes ». Alors, je me dis, ah bon, alors femme d'affaires, ça, c'est tellement pas moi que ça me paraissait complètement... Je me suis dit, mince, elle s'est trompée, en fait, bon, qu'est-ce que... Et puis finalement, donc je suis finaliste, ils viennent, ils tournent un film, tout ça, j'ai commencé à prendre une
sorte de réalité. Vous sentiez comment, à ce moment-là? Comment vous le viviez à ce moment-là?
Ah ben, j'étais assez incrédule, en fait, mais comme j'aimais bien Annie Famos, je trouvais ça sympa. Et surtout, mon rôle modèle, mon inspiratrice, qui était aussi marraine d'Utopie les premières années, Anita Rodic, la fondatrice de Body Shop, l'avait eue en 1984, donc je trouvais ça complètement incroyable. Là, c'était vraiment l'alignement absolu des planètes. Et je gagne. Surprise générale, enfin de moi en tout cas. Donc c'est LVMH, etc. Très sympa. Que
un magnifique prix, hein, ouais, c'est un prix magnifique.
Ça a changé de nom.
Bold.
Bold. Ça m'aurait d'ailleurs mieux été à l'époque que femme d'affaires de l'année.
Audace, ça veut dire.
Et, ouais. Oui, c'est ça. Et donc, d'une certaine façon, avec ce prix, on est Utopie, et moi aussi, on est sorti d'une espèce d'ornière alternative où on avait l'impression d'être quand même un peu. C'était une première reconnaissance en plus du monde des entreprises, des grands groupes, du monde économique, sur l'importance, et comme la part d'influence est importante pour nous, c'était une reconnaissance du fait qu'on avait réussi quand même à faire émerger ce sujet-là comme étant crédible dans les entreprises. Et quelques mois après, sans l'avoir demandé non plus, sans l'avoir vu venir, je suis dans la liste des chevaliers de la Légion d'honneur de l'année.
Chevaleresse.
En l'occurrence, oui. Et donc ça, c'était hyper intéressant aussi. Et j'ai demandé à François Lemarchand, le fondateur de Nature et Découverte, qui était un de nos premiers clients, d'accepter de me la remettre parce que lui il était déjà là aussi il y avait une histoire d'alignement et de lignée en fait de valeurs etc. Et c'était un moment très sympa aussi et ces deux reconnaissances là la même année, l'année des 15 ans c'était vraiment hyper important pour ancrer quelque chose ouais, du fait qu'on sortait du truc un peu associatif sans que ce soit péjoratif
de côté, non, pas très sérieux,
très militant, baba cool en skateboard quoi. Parce qu'il y a toujours le skateboard.
Vous avez toujours le skateboard.
Oui,
et vous avez été depuis également officier ou officière, je ne sais pas comment on dit, officier de l'Ordre national du mérite.
Tout à fait.
Incroyable d'ailleurs ce parallèle avec vous, Léa, parce que vous, c'est en 2014. Et l'OASSO, c'est alors 8 personnes. Aujourd'hui, 95.
Des babacools aussi. Voilà.
115. Aujourd'hui, 115 personnes.
115, oui, c'est ça.
Aujourd'hui, 115
oui.
Personnes. Vous êtes à Bordeaux. Et donc, 8 personnes à l'époque. À Bordeaux, vous recevez un mail de la France s'engage. C'est la première promotion de cette initiative qui est portée par François Hollande, qui à l'époque est président de la République. Et La France s'engage, c'est pour promouvoir, on le sait aujourd'hui, l'engagement de la société civile dans des initiatives qui sont innovantes, solidaires, etc. Qu'est-ce que disait ce mail qui vous est tombé dessus, un peu comme l'appel pour Elisabeth?
Eh bien, on reçoit cet email qui nous dit « François Hollande lance un programme présidentiel pour accélérer le changement d'échelle de 10 innovations sociales ». Et vous êtes dedans.
Alors, ça ne se passe plus comme ça maintenant. Hein. Il faut candidater, c'est hyper dur, et des centaines d'associations.
Sur cette première promotion, ça s'est passé comme ça. Et donc là, on hallucine un peu. On se dit, OK, c'est quoi ce truc? Donc, ça va s'appeler La France s'engage, etc. Et donc, on nous dit, bah voilà, c'est bon, vous êtes dedans. On était OK, on avait candidaté à rien. Hein. Ils avaient fait, du coup, une sélection par des membres d'un jury qui ont choisi les 10 premières. Et donc, on nous dit, bah, une équipe va venir là pour faire des photos, pour vous rencontrer, pour faire des éléments, etc. Et après, vous allez être invité à la cérémonie de remise et on va vous mettre en lien avec qui vous voulez dans les ministères au niveau du gouvernement pour vous aider à vous développer.
Le rêve.
Et là,
le rêve.
On était scotchés. Et ils nous disent globalement, après, dans les premières rencontres donc avec le cabinet de François Hollande, et qui nous disent, vous avez besoin de quoi? Enfin, concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment on peut vous aider? Donc, c'était assez surréaliste. Ça a été pour nous forcément un accélérateur énorme. Ce qu'on leur a demandé à ce moment-là, donc on a bénéficié d'un soutien financier qui était très significatif à l'époque, et on leur a demandé de nous aider aussi à connecter avec tous les acteurs qui accompagnent la vie associative. Et il y a notamment, il y a plus de 5000 points d'appui à la vie associative à travers le territoire, et on souhaitait pouvoir entrer en contact avec tous ces acteurs-là, qui connaissent ce qu'on fait, et qui soient en capacité de pouvoir en parler aussi aux associations qu'ils accompagnent, et qu'on puisse faire des choses avec eux. Ce qui a très bien fonctionné, ce qu'on a fait. Et on leur a demandé autre chose. On leur a dit aussi, on a besoin de mise en visibilité. Et on n'est pas les seuls. On est beaucoup d'acteurs aujourd'hui que nous, on avait fédérés dans un réseau qui s'appelait la Social Good Week et qui fédérait justement des initiatives qui allient technologie et réponse à un problème social ou environnemental. Et en fait, on se réunissait tous les ans pour une semaine dans le but de faire connaître ces initiatives, parce que pour beaucoup d'entre elles, il faut atteindre une taille critique pour avoir de l'impact. Et comment atteindre cette taille critique? En fait, il faut se faire connaître, il faut avoir et qu'il y ait des citoyens, des citoyennes qui se rendent sur ces plateformes, qui ne sont pas des plateformes de e-commerce, mais vraiment plutôt de solidarité, d'entraide. Et donc, on leur a dit, vous pouvez aussi mettre en visibilité sous ces acteurs-là et accueillir la Social Good Week à l'Élysée.
C'est vous qui avez eu l'idée de l'Élysée?
Ouais. On leur a dit, ce serait quand même un symbole fort. Et en fait, on l'a tenté. Nous, à ce moment-là, ils nous disent, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on a lâché toutes les idées qui nous passaient par la tête, dont celle-là, en disant, why not? Et là, ils nous disent, pourquoi pas, bonne idée. Et donc, on s'est retrouvés à co-organiser avec l'équipe du président un événement, et donc la plénière, et c'était la soirée d'ouverture de la Social Good Week à l'Élysée, où on a pu inviter beaucoup d'acteurs, de partenaires de l'écosystème économie sociale et solidaire, de la tech, des associatifs, dans le but aussi de créer ces rencontres en fait, entre des acteurs aussi tech et de l'intérêt général. Il y avait trois ministres qui étaient présents, il y avait le président qui était présent, il a été rencontré tous les projets, et je pense que ça a été pour nous forcément un accélérateur, mais aussi, et c'est ça qui nous tenait à cœur, et c'était le sens aussi de vouloir se fédérer dans la Social Good Week, c'est que je pense que toutes les personnes qui étaient en ont bénéficié aussi, tous les projets ont pu être mis en lumière, et ça a été, je pense, un accélérateur global pour cet écosystème.
Et vous deviez vous frotter les yeux à ce moment-là, hein, vous passez.
Surtout la veille, il est 1h du matin, on est encore en train de faire les préparations, les filages, etc. Et là, on se commande un McDo et on est en train de manger un McDo dans les salons de l'Élysée avec les dorures tout autour. Et là, effectivement, c'était un peu surréaliste. Donc c'est pour ça, moment magique, j'ai tout de suite pensé à ça en me disant, j'ai vécu ça et c'était quand même...
Pas très RSE le McDo, incroyable. Mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup.
Ouais, ça a changé, j'en mange plus.
Dernier moment clé, est-ce que vous pouvez partager avec nous l'opportunité que vous avez su voir, que vous avez saisie et qui a déclenché la suite? Parce qu'on voit toutes et tous des opportunités près de chez nous. Enfin, il y en a toujours qui passent près de nous. Et parfois, on les saisit, parfois, on ne les saisit pas. Elisabeth, vous, c'est l'année des 20 ans d'Utopie. Et c'est la rencontre avec le label Bicorp, dont j'ai parlé tout au démarrage, qui est vraiment un label qui marque l'engagement sociétal et environnemental des entreprises.
Avec un haut niveau d'exigence. Et effectivement, l'année juste avant nos 20 ans, donc 2013, enfin l'année de nos 20 ans, je cherchais une idée pour réaffirmer l'identité, la différence d'utopie, notamment qui est liée à nos think tanks, à l'origine associative, au statut de cabinet militant. Et pour affirmer cette différence, notamment par rapport à tous nos gros concurrents cabinets de conseil qui, entre-temps, évidemment, sont arrivés sur ces sujets, se mettent à travailler sur les mêmes sujets. Et cette année-là, on me propose d'animer une table ronde au World Forum de Lille et j'invite un entrepreneur américain que j'avais rencontré en Californie, qui s'appelle Mike Hannigan, qui est fondateur d'une entreprise qui fait des fournitures de bureaux écologiques qui s'appelle Give Something Back et qui a été une des premières avec Patagonia, entreprise labellisée B Corp en Californie. Et il se trouve que 6 mois avant, j'avais animé une table ronde avec justement le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, qu'on connaît bien depuis le début en France. Et Yvon m'avait dit « Ah, mais tu devrais regarder le label B Corp pour Utopie, etc. » Bon, c'est resté dans un coin de ma tête.
C'était
et
en 2013-2014.
Et ce soir-là, après la table ronde à Lille, on va dîner avec Mike. Et il me dit « Non, mais vraiment, tu devrais regarder B Corp. Et d'ailleurs, tu devrais même importer B Corp en Europe, etc. » Et moi, j'étais un peu sceptique parce que j'aime pas trop les labels en général. Parce que j'en ai vu beaucoup, d'abord, qui sont des usines à gaz qui transforme un sujet qui, pour moi, est hyper enthousiasmant en un truc un peu rébarbatif. Bon, ça, c'était le premier point. Par ailleurs, je trouve que les labels, c'est souvent un moyen pour faire autre chose. Et en fait, quand ça émerge, ça finit par être pris comme une fin en soi. C'est-à-dire, il faut être certifié, mais en fait, on ne sait plus trop pourquoi on le fait. Donc, bon, j'aimais pas trop ça, mais du coup, j'ai commencé à m'enseigner. Je me suis dit, non, en fait, pour les 20 ans, il y avait un slogan pour B Corp qui était « For Purpose, For Profit hein, », à la fois une entreprise à but lucratif et au service de l'intérêt collectif, avec une mission, ce qu'on appellerait aujourd'hui une société à mission. Je décide de devenir, enfin en tout cas de demander si on peut devenir la première entreprise certifiée en France. Donc à l'époque, il n'y avait pas B Corp, B Lab, était pas, qui est l'ONG derrière le label, n'était pas du tout présent en Europe. Donc j'ai interagi avec les États-Unis et puis on devient, on fait l'auto-évaluation en ligne, on remplit, on passe le cap quand même, heureusement, des 80 points sur 200 nécessaires pour être certifié. Et on devient la première entreprise B Corp. Et à ce moment-là, j'ai un appel, on me dit, ah ben en fait, on est en train de lancer B Corp en Europe et on cherche des partenaires dans chaque pays pour nous aider à lancer le mouvement, puisqu'au-delà d'un label, c'est un mouvement d'entreprise très engagé. Et ils me disent, est-ce que tu veux pas t'occuper du lancement en France, puisque maintenant tu es certifié? Finalement, nous, ça ne nous faisait pas faire beaucoup d'autres choses que ce qu'on faisait déjà, c'est-à-dire aller expliquer aux entreprises qu'il fallait faire mieux et plus. Et en plus, là, on leur donnait un outil qui était gratuit, qui ne vendait même pas plus de conseils pour le faire. Et donc, on s'est occupé pendant 5 ans, donc de 2014 à 2019, du lancement du B Corp en France. Quand on a été une communauté d'une centaines d'entreprises. À ce moment-là, on a dit, bon, ben là, on peut créer une association. Donc, on a créé B-Lab France. Moi, je ne suis plus qu'administratrice de cette association qui vit désormais sa vie avec une quinzaine de salariés, d'ailleurs. Et puis, pour Utopie, c'est devenu extrêmement structurant parce que je trouvais que la RSE devenait quelque chose de très réglementaire et un peu rébarbatif, justement. Et là, B Corp a ce truc que les Américains savent très bien faire, c'est-à-dire c'est à la fois très robuste sur le fond et très enthousiasmant sur la forme. Et donc, nous, on a beaucoup... Après avoir lancé le mouvement, avant on ne le faisait pas, maintenant on a intégré ça à nos prestations et on utilise beaucoup ça pour stimuler nos clients en leur disant « Qu'est-ce que tu pourrais faire pour devenir le Patagonia de ton secteur ?» Maintenant ça parle.
Mais c'est vrai que c'est un label qui est très positif. Vous Léa, c'est pareil, hein, cette opportunité, c'est un travail sur vos valeurs. Donc ce n'était pas B Corp, mais c'est un travail sur vos valeurs. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez fait ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une phrase qui pouvait paraître assez négative au départ, qu'on a saisie au vol en se disant tiens ça on va en faire quelque chose. Et en fait on est fin 2017, on a fait une nouvelle levée de fonds de 6 millions d'euros, on est 15 à l'époque, on s'apprête à démarrer un plan de croissance assez ambitieux avec du coup beaucoup de personnes qui vont nous rejoindre. Donc on avait prévu de recruter 50 personnes en 2 ans et à ce moment-là l'équipe, donc de 15 personnes à l'époque, est très inquiète par rapport à ça et se dit ah bah en fait les nouveaux, donc on diabolise beaucoup les nouveaux,
on va perdre notre âme, nos valeurs, c'est ça.
Et la question qui est posée, c'est comment grandir sans perdre notre âme. Et en fait, de cette inquiétude un peu de l'équipe, on s'est dit ok, on va mettre ça au centre. Et on a une tradition chez l'OASSO depuis cette date qu'on a toujours, c'est que tous les 3 mois on réunit toute l'équipe hors les murs, on part une journée et on fait de la rétrospective. Donc on consacre toute la matinée à faire le bilan de ce qui s'est passé sur le trimestre d'avant, on dégage des pistes d'action collective et ensuite on parle un peu du trimestre qui vient et on travaille sur la culture. Et donc à ce moment-là, on met au centre de cette journée comment grandir sans perdre notre âme et on se dit, ok, réfléchissons concrètement comment on va faire. Et donc on a travaillé et la culture d'une organisation, elle existe toujours. Par contre, l'important, c'est comment on la décrit et comment on la transmet. Et donc on a demandé à toute l'équipe justement de dire qu'est-ce qui le rend fier chez l'OASSO, qu'est-ce qui le rend heureux. Donc on utilise beaucoup, et moi j'aime beaucoup cette méthode, la démarche appréciative, qui va faire sortir justement ce qu'il y a de mieux et de se dire bah, ce mieux, ce qui dépasse, ce qui sont les faits saillants en fait, qui parlent aux salariés, on va en faire la nouvelle norme et de se dire que ça va être la base. Et donc, on a écrit collectivement les valeurs, les principes de travail. On a fait des adoptions par vote de toute l'équipe, etc., de ces principes-là. Et ensuite, on s'est dit bah, comment on transmet ça aux nouvelles personnes. Donc, on a construit des parcours d'intégration. Il y a des parrains et des marraines qui accueillent les nouveaux chez Hello Asso, qui vont les aider justement à s'imprégner de cette culture. On a inscrit bah, ces principes de travail, je dirais, qui sont aussi voilà, les comportements qu'on souhaite avoir les uns avec les autres dans le cadre des évaluations RH aussi, au même titre que l'évaluation sur la performance. Et du coup, c'est devenu, je dirais, un ciment très fort sur lequel on a construit ensuite la croissance d'Hello Asso. Et je pense que c'est des phases d'accélération qui peuvent être très casse-gueule pour beaucoup de boîtes. Et ces phases d'hypercroissance, en plus, je trouve que parfois, c'est pas un rythme très, très humain, en fait. Enfin, il y a quelque chose qui est... Enfin, quand on grandit très, très vite comme ça. Donc, nous, on a été assez prudents là-dedans. On y a été pas à pas. Et on a vraiment, surtout, et moi, c'est le conseil que je donnerais là-dessus, c'est qu'on a continué à le faire toujours avec l'équipe. Donc, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, quand il y a des sujets d'organisation, en fait, on continue à mettre tout au centre de la pièce, tous ensemble. Donc, maintenant, on a plein de méthodologies diverses et variées, de rétrospectives. On fait des choses très créatives. Mais ça permet d'en parler tous ensemble et surtout de continuer à évoluer. Et à chacune de mes présentations, j'ai la citation de Darwin. Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, mais celles qui s'adaptent. Et c'est ce qu'on cherche à faire en interne.
Oui, je réagissais sur grandir sans perdre ses valeurs, parce que nous, finalement, c'est ce qui nous est arrivé aussi à peu près au même moment, au moment de Bicorp. Moi, je cherchais une façon de réaffirmer notre différence, mais finalement, c'est arrivé juste avant une croissance. La croissance d'Utopie, elle a toujours été organique, mais là, typiquement, on a doublé la taille en 5 ans, et l'équipe était très inquiète aussi, en disant on va perdre nos valeurs, etc. Et il y a eu un espèce de deuxième effet qui se coule que j'avais pas vu venir sur Bicorp, qui est que finalement, ça m'a permis de leur dire non, mais en fait, c'est l'inverse. La croissance, ça va nous donner plus de moyens pour faire plus d'engagement, pas moins de choses. Et finalement, cet engagement dans Bicorp, ça a été le début, moi qui n'aimais pas les labels, de plein d'engagements structurants pour nous. Alors évidemment, Bicorp, puisqu'on recertifie tous les 3 ans, là, on est dans notre 4e recertification, avec un enjeu que la barre monte à chaque certification. Donc si on progresse pas, en fait, on régresse dans les points. Donc on essaie de progresser. Du coup, on progresse encore plus. Great Place to Work, d'une certaine façon, c'est venu là-dessus aussi. La société à mission, le label ESUS, etc. Et puis sur la dimension RH, qui est structurante pour nous, parce qu'on a évidemment, on est un people business hein, dans le conseil. Notre ressource principale, ce sont l'équipe, enfin les gens de l'équipe. On s'est lancé dans plein de labels, genre Cancer at Work, Family Friendly, pour la parentalité. Et finalement, on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avec la croissance que ce qu'on faisait avant de croître comme ça.
Merci à vous deux. On va terminer par un petit portrait chinois. Si vous vous croisiez à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la Elisabeth de 20 ans vous dirait en vous regardant? Elle penserait quoi en vous regardant, Elisabeth?
Eh ben, elle dirait, t'as bien fait de continuer à faire du skate quand même.
Ça maintient en forme.
Et surtout, n'arrête pas, quel que soit ton âge. Non, mais globalement, elle dirait, t'as bien fait de continuer à aller tout le temps vers ce qui te fait kiffer. Parce qu'en fait, c'est là qu'il y a le plus d'énergie pour faire des choses et transformer les choses aussi pour moi et autour de moi.
Léa, elle vous dirait quoi, la Léa de 20 ans?
Elle me dirait, tu vas pas changer le monde, mais tu vas pouvoir changer des choses. Moi, j'étais très utopiste. Quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. Je voulais travailler dans les droits de l'homme. J'ai postulé chez Utopie, d'ailleurs. Et je pense qu'à un moment, je me suis un peu résignée en me disant s'il faut un changement systémique, c'est trop gros. Et après, je me suis dit, bah, en fait, peut-être par l'entrepreneuriat social, de pouvoir changer un petit peu. Et en fait, on peut changer les choses.
Ce qui vous ressource?
Et jouer avec mes 2 filles, qui ont 5 et 1 an, ça me ressource, ça me donne de l'énergie.
Moi, ma fille a 17 ans, donc là, elle me ressource toujours, mais différemment. Non, moi, ce qui me ressource, j'ai un appart. Ma mère était marseillaise, comme je l'ai dit. Elle est morte en 2020. Et 3 mois après, mais vraiment littéralement, je ne rentre pas dans les détails, mais un appart m'est tombé du ciel à Marseille pour le prix d'un parking à Paris. Et donc, ce qui me ressource, là, depuis un an, c'est Marseille, le retour aux sources, quand même, littéralement, ça ressource. La lumière, la mer, voilà. Et alors, si en plus, j'y vais avec des amis et qu'on rit beaucoup. Du coup, rire avec des amis à Marseille, au bord de la mer, c'est le pied.
La discipline de vie qui vous sauve, si vous avez une discipline.
Et de ne pas travailler le week-end.
Alors, comme je travaille le week-end, je ne peux pas dire ça. Mais non, la discipline qui me sauve depuis le Covid, c'est j'ai essayé de faire du sport en ligne. Mon club de boxe s'est mis à faire des cours en ligne.
Vous faites de la boxe aussi ?
J'en faisais très, très peu et très mal. Mais du coup, je m'y suis mise justement en ligne. Et ça, comme j'économisais le temps de trajet, j'ai mis du sport à la place. Et j'ai gardé la discipline d'en faire à peu près 4 ou 5 séances par semaine. Donc, c'est très, très bien pour moi. Et si je dormais un peu plus, ça serait la discipline qui me sauverait. En complément.
De quoi n'avez-vous plus peur ?
De tenter des trucs dont tout le monde me dit « Non mais là, il faut surtout pas que t'y ailles. »
J'ai plus peur de d'être telle que je suis. Quelque part, maintenant, je m'accepte, j'accepte ce que je sais faire, j'accepte ce que j'ai pas à faire. Et ça ne m'effraie plus ce que je sais pas faire.
Qu'avez-vous accepté de la vie ?
Des choses qui tombent et soudain, ça paraît comme une évidence. Alors que c'était pas prévu à ce moment-là, même pas prévu du tout.
Léa ?
Justement, j'accepte de ne pas pouvoir tout faire et d'être indulgente par rapport à ça. Et je pense notamment avec l'arrivée des enfants.
C'est sûr.
C'est mon directeur financier qui m'a dit « t'es moins efficace et t'es moins rapide qu'avant, mais c'est normal, c'est comme ça ». Ça m'a piqué et à la fois je me suis dit « mais en fait, il a raison ». Et à un moment, il faut que j'accepte que maintenant, c'est comme ça.
Ce qui a pris plus de temps que prévu ?
Atteindre la rentabilité ? Nous, c'était en 2017, donc ça a pris 8 ans.
Alors nous, l'autofinancement a à peu près toujours été là. Ce qui a pris plus de temps que prévu, c'est le temps de boulot dans ma vie.
Sur quoi vous travaillez pour progresser ?
Le sommeil, le respect du temps de sommeil.
Pareil.
Très important. Merci Elisabeth Laville, merci Léa Thomassin, merci à vous qui nous écoutez. Un immense merci aussi à Camille Codor, Elisa Grenet, Marie Jaworski. Merci à Sandrine Dao, Zaya Cassel et à la Dream Team des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.